17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Un grand témoin spécial aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, le plaisir, la joie d'accueillir Marine Tondoni.
Eh ben c'est réciproque, bonjour. Merci Nasser, merci à toute l'équipe et bonjour aux auditeurs de Beurre FM.
Vraiment un plaisir que vous devez recevoir. Vous êtes une des plus jeunes patronnes de parti politique, une chefe, hein, on est dans le langage inclusif.
T'as tout compris à l'écologie.
Une chefe. Et vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez fêté votre anniversaire le 10 décembre. Vous avez fait quoi ?
Une interview dans le Figaro.
Franchement, comme anniversaire, on fait mieux quand même.
C'est ça. Bon, c'est... Pour expliquer un peu le bilan de ce qu'on avait fait en un an. Il s'est quand même passé des choses depuis un an que je suis secrétaire nationale. Dans notre mouvement, bien sûr, mais évidemment en France et dans le monde. Et je pense que nous avons été au rendez-vous des batailles que nous devions mener. Et ça ne fait que commencer.
Vous êtes une ch'ti, vous êtes née dans le Nord et vous êtes en bataille.
Dans le Pas-de-Calais, attention Nasser, c'est très important.
Dans le Pas-de-Calais, maintenant ça s'appelle... Ça vous chagrine qu'on appelle ça les Hauts-de-France ?
Bah alors c'était un peu bizarre. Moi je n'ai rien contre les Picards, sachez-le, je le dis, on s'entend très bien. À la région, je siège au conseil régional, on travaille ensemble. Mais c'est vrai qu'il y avait le Nord-Pas-de-Calais. Déjà dans le Nord-Pas-de-Calais, il y avait le Nord et puis le Pas-de-Calais. Ouais. Mais là, la Picardie, bah, par exemple la Somme, Amiens, tout ça... On a beaucoup de relations de base, mais c'est vrai que par exemple, plus on va vers le sud, plus c'est des gens qui sont plutôt franciliens et qui travaillent tous à Paris, qui c'est pas du tout les mêmes vies. Donc au moment des fusions, on s'était posé plein de questions. Là, il y en a qui veulent défusionner la Picardie Nord-Pas-de-Calais. Moi, écoutez, je ferai comme ils veulent. Je suis très adaptable et j'aime tout le monde.
Une fille du cru, et vous êtes là où l'extrême droite est majoritaire maintenant depuis 2014. Et le fait qu'elle soit aux commandes depuis 2014 à Hénin Beaumont. Ça veut dire que les gens continuent à leur faire confiance, que les élus d'opposition n'arrivent pas à inverser la tendance. Il se passe quoi ?
Bah, il se passe, vous savez que c'était un territoire qui était quand même rongé par la crise sociale, parce que fermeture des mines, puis on ne s'en est jamais remis, ce territoire. Évidemment, une crise environnementale. Je rappelle que quand vous naissez à Hénin Beaumont, le jour de votre naissance, vous n'avez encore rien fait. Vous avez déjà 5 ans d'espérance de vie qu'un Parisien, de moins qu'un Parisien à la base, parce que la vie est plus dure, parce que l'environnement est pollué, l'eau, l'air, le sol, tout. Et puis aussi une crise politique, et avec beaucoup d'affaires politico-judiciaires, puisque le maire qui était maire quand j'étais au lycée a fini en prison avec 18 chefs d'inculpation quand même. C'est-à-dire que tout ce qu'il ne fallait pas faire, il l'a fait, toute la collection, il a coché toutes les cases. Et donc le terrain était hyper propice pour le Rassemblement National, et ils ont pris en plus la ville... L'année où à la fois il y a eu toutes ces affaires, il y avait une équipe pendant 4 ans qui a tout fait pour redresser, que la préfecture, les impôts ont augmenté de 85%, ils ont rien dépensé, donc les gens disaient c'est du sang, de la sueur et des larmes, c'est-à-dire qu'on paye plus d'impôts qu'on n'en a jamais payé, il n'y a pas un bon public, il n'y a plus de fleurs dans les parterres, il n'y a plus de papier dans les photocopieuses, c'est quoi cette mairie ? Et le moment où le Rassemblement National arrive, la situation financière avait été assainie. Et donc ils sont arrivés avec un peu un tapis rouge, c'est-à-dire qu'ils ont pu redépenser plein de choses, faire des fleurs partout, le concert gratuit de Jennifer, tout. Et donc évidemment, y a un côté en politique où, au niveau local, ça marche pour plein de gens qui ne sont pas politisés, qui disent juste « je paye des impôts, si mon trottoir peut être propre, c'est mieux ».
Voilà. Vous avez fait un lapsus sanitaire, je vais rebondir dessus parce que...
C'est depuis le Covid, on dit crise, paf, on pense sanitaire.
Et puis en même temps, votre dada, c'est la santé environnementale.
Exactement.
Depuis toujours, vous avez même postulé à être directeur d'hôpital. Et vous avez un credo, vous dites, on n'abandonne jamais. C'est vraiment votre credo, parce que vous pensez...
J'espère pouvoir le garder jusqu'à la fin de mes jours.
Parce que pourquoi ? Pour vous, vous avez le sentiment que les politiques se laissent volontiers aller à l'abandon ?
Je pense qu'on vit dans un monde qui est profondément décourageant.
C'est ça, oui. Une fois qu'ils sont élus, ils s'en foutent, c'est ça ?
Mais pas que les politiques. Pas que les politiques. Je pense qu'on est dans un monde qui est profondément décourageant. Je vois beaucoup de personnes que j'ai connues dans l'allant, dans la révolte, dans la colère, dans on va tout changer. Et tout d'un coup, je les vois pas s'éteindre, mais dire en fait, c'est trop dur, je suis fatiguée, j'en ai marre, je pense qu'on n'y arrivera pas, c'est trop dur, je préfère faire autre chose. Et donc, on envoie des compagnons de route quand même qui vont faire autre chose. Et voilà, je pense qu'on a une philosophie chez les écolos qui est qu'on n'a jamais cru que ce serait simple. Nous, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, on n'arrive pas tout feu tout plat, maintenant ça va être super simple. Ah bah non, c'est difficile, je suis découragée. Nous, chez les, en général, quand on arrive chez les Verts, on sait que ça ne va pas être simple et ce n'est pas pour ça qu'on est venu d'ailleurs.
Alors, les
donc
Verts,
voilà, il y a un truc de détermination quand même.
Les gens, soit pensent que ce sont des illuminés,
ah
ce
bon
sont des gens qui sont dans l'utopie, hein, l'utopie ou la mort de René Dumont, on se rappelle de ça.
Bah, c'est déjà mieux de choisir l'utopie, excusez-moi.
Soit des gens qui. Voilà, des gens qui, en fait, qui racontent ce qu'ils veulent parce que, en fait, c'est des gens de gauche déguisés, quoi. À chaque fois, ils sont dans le rapport de gauche.
Ah, ils préféraient qu'on soit de droite.
Je sais pas.
Désolé, les gars.
Alors, pour vous, c'est quoi l'écologie? Parce que il y a l'écologie. Alors, les gens disent bon, à quoi ça sert un parti écologique? À quoi ça sert un parti environnemental? Il y a des partis politiques et dans les programmes des partis politiques, eh ben il y aura de l'écologie, il y aura l'environnement. Pourquoi faire un parti écologique?
C'est marrant qu'on se demande jamais à quoi ça sert le Rassemblement national. Donc moi je pose la question aussi. Ce sera pour une autre émission. Je vais répondre à vos deux questions en même temps. L'histoire de la droite, la gauche et où l'écologie dans tout ça et l'histoire de à quoi ça sert l'écologie. Ouais. L'écologie, c'est la défense du vivant. Et le vivant, c'est large. Quand on défend le vivant, moi, quand les gens disent « Non, mais je veux bien défendre les arbres, les oiseaux, mais je vois pas le rapport avec les migrants à Calais », c'est des phrases qu'on me dit dans le Pas-de-Calais, je leur dis « Bah, moi, je le vois ». L'écologie, c'est le rapport, la science écologie, avant même de parler de la politique, c'est le rapport des écosystèmes. Et notre écosystème, c'est tout ce qui nous entoure. Il n'y a pas les sujets qui nous intéressent, genre « Ah, bah tiens, les dauphins, c'est mignon, on va les aider, mais ce migrant-là, par contre, je ne trouve pas du tout mignon. D'ailleurs, je crois qu'il va prendre mon travail parce que j'entends ça à la télé tous les jours. Donc lui, non, ça j'aide pas. »
Donc l'écologie, c'est pas que la biodiversité, c'est pas que les océans, c'est pas que les fleurs,
c'est aussi la relation humaine. Et tout est lié, parce que vous voyez bien que si tout d'un coup, il n'y a plus d'abeilles, qu'il n'y a plus d'oiseaux dans les champs, etc., c'est quand même compliqué pour l'espèce humaine, tout comme... l'espèce humaine est aussi devenue importante quand même sur cette planète.
Donc, c'est la fonte des glaciers,
tout est lié.
C'est la barrière de corail qui est divisée par deux, et c'est la disparition des abeilles qui est programmée.
Et je vous donne le chiffre des oiseaux qui me stresse beaucoup, donc je vous le livre. En 40 ans, en Europe, 60% des oiseaux des champs ont disparu. 60%. Alors, c'est pour plein de raisons, mais il y a 20 000 km de haies. Vous savez, les haies qui étaient autour des champs qui disparaissent encore chaque année. C'est énorme, en fait, l'impact qui est fait. Alors, nous, on se dit, bon, bah voilà, il y a un entrepôt logistique, bon, bah j'aurai mes colis plus vite à Noël. Mais derrière, c'est plein de choses. Quand on dit, bah, j'achète conventionnel plutôt que du bio, bah, en fait, à la fin, c'est des pesticides dans les champs. Et c'est pas que la qualité de ce qu'on a dans nos assiettes, c'est la qualité de l'air qu'on respire, c'est la qualité de l'eau qu'on boit, c'est la biodiversité des animaux qui n'arrivent plus à survivre. Et donc, tout est lié. Et l'écologie, c'est une vision globale du monde, qui est une vision pacificatrice des écosystèmes entre eux, qui est une vision de protection. On veut protéger le vivant, on veut aider. C'est pas comme Macron, fort avec les faibles et faible avec les forts, débrouillez-vous. C'est vraiment très inclusif,
protecteur. Pour terminer rapidement
protecteur.
Ce petit portrait un peu en transversal, en dehors du souci de la planète que vous venez de définir sur la biodiversité, la nature, mais aussi la relation humaine, l'homme, etc., vous avez le souci du collectif. J'ai vu ça partout. Vous êtes très engagé par le collectif.
Vous aimez la foule.
Vous êtes bien dans la foule, match de foot, meeting, etc. Mais vous avez le souci du collectif, c'est-à-dire que on gagne avec le collectif et on perd avec l'individu, c'est ça?
Ben c'est ça, c'est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, vous connaissez le proverbe. C'est quelque chose qui est à la base de mon engagement politique. Et je pense que dans la difficulté de ce que je vivais à Hénin-Beaumont comme jeune militante, à un moment j'étais seule élue écolo dans toute l'agglomération. Donc si vous voulez, outre que Hénin-Beaumont c'était quand même pas simple à la base, mais en plus dans toute mon agglo, bah, il n'y avait pas d'autres écolos. Donc j'ai appris jeune sur le tas, je pense que j'ai appris dans l'un des plus durs des endroits en France. Donc voilà, ça c'est fait. Et du coup pour moi, le collectif, mon parti, était quelque chose d'hyper important parce que c'est ce qui fait qu'à la fin, même si j'étais un peu toute seule, en fait, je ne l'étais pas. Et c'est formateur, c'est de la transmission, c'est ce qui donne du sens aussi à ce qu'on fait. C'est précieux, ça aide à tenir, ça aide à grandir, ça aide à gagner des batailles. Et je peux vous dire que quand je voyais des maires écolos gagner les plus grandes villes de France, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg, j'étais hyper fière et je me disais, on l'a fait ensemble. C'est tout ça, à la fin, c'est un travail d'équipe.
Alors pour terminer, il y a vraiment un truc.
Comme ça qu'on gagnera.
Il y a vraiment un truc qui vous énerve, c'est le yacht de Bernard Arnault. Ça vous énerve, ça. J'ai lu quelque part.
Il n'y a pas que ça.
Non, entre autres, ça vous énerve. Pourquoi ça vous énerve?
Encore une fois, je trouve que c'est compliqué aujourd'hui, quand j'entends la radio, de dire, attention les Français, ne vous chauffez pas à plus que 19 degrés, sinon c'est criminel. Vous serez vous-même responsable. Attention, toi, tu habites dans la ruralité, tu as pris ton véhicule diesel pour aller travailler. Mais honte à toi! tu aurais dû le changer depuis longtemps. Oui, tu n'as pas d'argent, mais alors, il fallait réussir dans la vie. Et donc, il y a un truc très culpabilisant qui est basé sur tout le monde, alors que être écologiste dans une société qui ne l'est pas, ça n'est pas possible. Donc moi, je mange pas de viande depuis 15 ans, je prends plus l'avion, tout ça, ok. Mais dès que je dois acheter un vêtement, un truc, enfin, on est tous amenés à avoir des comportements pas écolos dans une société qui ne l'est pas. Mais on se fait culpabiliser tout le temps, y compris par des gens qui sont pas écolos, qui sont très mal placés pour nous donner les leçons, c'est-à-dire l'ensemble du gouvernement. Et à côté de ça, il y a des ultra riches qui sont quand même les premiers responsables de la crise environnementale. Parce que vous regardez bien dans le monde d'où viennent les émissions de CO2, c'est pas des plus précaires, hein, ni en France, ni dans le monde. Donc eux, déjà, ils sont premiers responsables. Je n'ai jamais entendu s'excuser, essayer de remédier au problème, pas du tout. Et en plus, eux, leurs modes de vie ne sont jamais remis en question. Et donc, passer des vacances sur un super yacht, j'ai plus le chiffre en tête, vous me prenez au dépourvu, mais quand on regarde en un mois ce qu'émet le super yacht de Bernard Arnault par rapport à ce qu'un Français émettra dans une vie, c'est sans commune mesure. Donc,
Vous avez dit, le Bernard Arnault émet autant de CO2 qu'un Français moyen en 160 ans.
Coup, en plus, c'est pas beaucoup de Français moyens qui vivent 150 ans quand même. Mais on peut faire les jets privés, il y a plusieurs trucs qui ne vont pas dans le mode de vie des ultra-riches.
Avant de rentrer dans le vif du sujet et dans les thèmes qu'on va aborder, en un mot. Je vous ai vu sur un plateau et vous avez dit un truc que j'ai trouvé génial et hyper intéressant. Vous avez parlé des Jeux Olympiques en 2024. Et vous avez dit, mais pourquoi on concentre ça dans une ville, dans un pays? Pourquoi on ne pourrait pas faire les Jeux Olympiques, une discipline à Paris, l'autre à Bruxelles, l'autre à... J'ai trouvé ça incroyable, de vérité.
Vous avez pris des endroits proches, mais on pourrait éclater ça dans le monde entier. Et là, ce serait un rendez-vous mondial et olympique. Ouais. Je trouve que les Jeux Olympiques... On n'arrivera pas, c'est mentir aux gens que de dire on va pouvoir continuer les Jeux Olympiques comme ça pendant 100 ans. La planète est en train de devenir inhabitable. Donc je veux bien qu'on continue à faire des Coupes du Monde de foot à Dubaï dans des stades climatisés. Les Jeux Olympiques d'hiver, là, de l'Asie, vous savez où ça va être ? En Arabie Saoudite. Les Jeux Olympiques d'hiver, en Arabie Saoudite. Personne ne voit le problème. Très bien. Et donc de toute manière, c'est plus tenable environnementalement. Et donc je pense que... Si on veut continuer, parce que moi j'aime le sport, j'aime ces rendez-vous mondiaux, je vibre devant la télé, je fais partie des gens qui me réveillent la nuit pour voir la finale du 4x100 mètres, et je veux continuer à vivre ça comme plein de gens. Mais si on veut que ça continue, il va falloir faire autrement. Et donc si on dit à un moment qu'on arrête de faire des années de préparation de dossiers, de trucs, de lobbying, avec en plus tout le pognon qui tourne autour de ça, parce que gagner c'est un énorme enjeu financier, donc on ne choisit plus une ville, c'est partout. Celui qui a un stade de foot, il fait les épreuves de foot. Celui qui a une piste de curling, il fait les épreuves de curling. Et celui qui a des tables de ping-pong, il fait les épreuves de ping-pong. Mais c'est pour tout le monde, c'est pas que les pays riches. Et surtout, on arrête. Vous allez voir à Paris, hein, on va tout chambouler pour faire un village olympique pour 20 000 personnes qui va durer 3 semaines. Donc c'est pas possible. On gâche de l'énergie. Et donc je pense que ça va pas.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Grand témoin, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, depuis le 10 décembre 2022, qui nous fait l'honneur d'être notre invitée. Ça change de nom, ça s'appelle les écologistes, hein, c'est ça ?
Exactement, je faisais la réflexion dans ma tête pour intuiter secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts.
Les gens vont s'y retrouver quand ils vont voter ou pas ?
Vous savez, il y a Nicolas Boileau. C'est un poète, il a dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. » Europe, écologie, les Verts, c'est même pas vraiment en français quand on dit, voilà. Et donc du coup, les écologistes, tout le monde comprend, de mon fils de 5 ans, dans tous les endroits de France, tout le monde dit, les écologistes, c'est l'écologie. Voilà.
Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, en un mot, un seul mot, Marine Tondelier, la loi sur l'immigration, un mot.
Honte.
La guerre israélo-palestinienne.
Tristesse.
La planète qui se meurt.
Angoisse. Vous avez des trucs positifs, n'hésitez pas. Hein, parce que
partout où vous parlez, vous dites prendre le pouvoir, en un mot. Vous dites je veux prendre le pouvoir.
Gagner. Voilà.
Alors on rentre dans le vif du sujet. La loi sur l'immigration, on a vu Emmanuel Macron à la télévision venir dire que c'était un bouclier pour les Français, que c'était pas la préférence nationale, et que quelque part il fallait aller sur les problèmes que le Front National posait. Donc il reprenait un peu la formule de Laurent Fabius que vous connaissez, hein. Le Front National pose les bonnes questions mais apporte les mauvaises réponses.
Alors que Emmanuel Macron apporte toujours les bonnes, comme chacun sait. Voilà.
Alors cette loi sur l'immigration, c'est quoi ? C'est Pétain qui revient ? C'est Munich ? C'est quoi ?
La première chose, vous parlez de Emmanuel Macron qui a fait son intervention sur France 5. Bon, manifestement, vous l'avez regardé. Moi, j'ai pas eu ce courage.
Donc, des extraits.
Je vous félicite. Ouais. Mais ce que je comprends de son intervention, et de toute façon, c'est toujours la même chose, c'est que bon, bah, tous les Français sont dans une forme d'incompréhension. Il y a des divisions. On voit bien que ce sujet clive. Et lui, à chaque fois, il va à la télé et il nous explique qu'en fait, c'est parce qu'on, je vais être vulgaire, mais on est trop con en fait, on n'a pas compris. Donc lui, il va nous expliquer qu'en fait, c'est nous qui n'avions pas compris. C'est toujours comme ça avec lui. Sur les retraites, c'était ça à chaque fois.
C'est une capitulation. Il a capitulé.
Ben c'est là-dessus que je voulais aller. C'est-à-dire que on entend que c'est pas normal qu'il y ait des voix de gens qui se mélangent aux voix du RN. Mais moi, que le RN ait voté ce texte, ça ne me choque pas. C'est leur programme. Donc je vois pas pourquoi le RN devait voter contre un texte sur lequel ils avaient obtenu tout ce qu'ils voulaient. C'est leur programme. Ce qui me choque, c'est toutes les personnes qui ne sont pas Rassemblement National et qui ont voté ce texte. La droite, évidemment. Alors on peut dire, bon bah ils sont de droite, ok. Mais la droite d'il y a 10 ans n'aurait jamais voté ce texte. Ça aurait fait un débat énorme chez eux si l'un d'entre eux avait osé poser sur la table certaines choses qui sont dans cette loi.
Rousseau, on le salue.
Alors voilà, et après il y a les macronistes. Et donc Aurélien Rousseau, qui était ministre de la Santé, qui a la dignité de se lever et de se casser, comme on dit parfois qu'il faut le faire quand on n'est pas d'accord.
Et puis la quarantaine de députés qui n'a pas voté.
Parce que sur tous les ministres dont j'ai entendu qu'ils n'étaient pas à l'aise, bon, je constate qu'à part un, ils sont encore tous là. Alors ils nous expliqueront sans doute que parce que si ce n'est pas eux, c'est des gens pires et que ce sera pire après tout ça. En tout cas, lui, il a dit ce qu'il allait faire et il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Donc je trouve ça assez digne et courageux. Mais voilà, il y a tous les autres. Et en plus, j'ai lu sur Twitter des explications alambiquées. Il y en a un notamment qui dit « Oui, je suis pas d'accord avec ça, mais moi, j'ai voté à la fin pour aider un président en difficulté. » C'est quoi cette histoire? C'est que même chez LREM, maintenant, c'est les nôtres avant les autres. C'est-à-dire, ils disent « Bon, bah, ça va pas du tout pour tous les humains, ce texte. Mais pour
rouge.
Notre parti, je l'ai fait parce que sinon, on était en difficulté. » C'est pas ça, la politique.
La ligne rouge, en dehors de la France nationale, c'est français de souche et c'est le droit du sol, etc. C'est quand même que c'était, jusqu'à maintenant, c'était le droit, c'était la loi, et que à partir de cette loi, c'est les préfets qui vont de façon discrétionnaire donner des cartes, etc. Donc on s'oriente vers une société, une politique, un système administratif. C'est le début des dictatures.
Et puis surtout, c'est pas juste que ça va être administratif, c'est qui sera derrière l'administration. Parce que moi, pour travailler avec certains préfets...
Est-ce que c'est pré-dictatorial ce qu'on est en train de vivre?
Je vous donne l'exemple de mon préfet du Nord. Vous savez qu'il y a toute la polémique en ce moment sur le lycée Averroès, qui est un dossier extrêmement préoccupant. Il y a ça. Lui, avant, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait été préfet dans le coin de la vallée de la Roya, en zone de montagne, où il y a quand même eu des migrants qui sont morts sans qu'on leur porte assistance. Il a été préfet en Seine-Saint-Denis, où il a mis pendant tout le confinement, tout le Covid, des amendes tous les jours à des gamins qui étaient à la rue, pas parce qu'ils n'avaient pas rempli le formulaire où il y avait 17 cases à cocher, parce qu'ils n'avaient pas de maison. Il leur a mis des amendes tous les jours. Donc si c'est ça les préfets, ben voilà, si les préfets c'est des gens humanistes, tout ça, qui prennent en compte les choses, c'est pas juste administratif, le problème c'est qui est dans l'administration. Et aujourd'hui, quand on voit la tournure de certains préfets, les décisions qui sont prises, qui sont choquantes sur le plan humain, sur le plan environnemental, alors oui, on peut être que préoccupé par cette
Macron
décision.
Est-ce que Macron nous emmène sur une pré-dictature?
Je vois que vous avez envie que je le dise, parce qu'on peut dire les 49-3, plus on manifeste, ils s'en fichent, plus tout ça, ça va pas dans la bonne direction, c'est extrêmement préoccupant. Et moi, quand j'entends parler de est-ce qu'il faut dissoudre ou pas l'Assemblée nationale, vous pouvez la dissoudre, l'Assemblée nationale, vous aurez le même problème, voire pire, selon qui sera élu. Mais c'est la 5ème République qu'il faut dissoudre. On est au bout de ce régime, ça ne marche plus.
Marine Tondelier, comment peut-on, depuis 5 siècles, on a le droit du sol, avancer sur le droit du sang qui existe dans d'autres pays. Je veux dire, comment un gamin qui a 14, 15, 16 ans, il ne sait même pas ce qu'il va faire après le bac, etc. On va lui dire, allez, choisis ta nationalité. T'es argentin, t'es mexicain, t'es sénégalais, t'es algérien. Comment peut-on remettre en cause le droit du sol où les gens étaient français de façon naturelle et que s'ils avaient envie à 30 ans ou 40 ans de renoncer, comment on peut renier, revenir sur ce... C'est anticonstitutionnel.
Alors,
il faudrait le faire rentrer dans la
Constitution. C'est plutôt à Macron qu'il faudrait poser la question qu'à moi, parce que moi je me pose la même que vous, pour être tout à fait sincère. Deuxièmement, vous posez le problème de mesures qui sont inconstitutionnelles. Ça veut dire que sciemment, en fait, il les laisse dans le texte pour avoir les voix de la droite et de l'extrême droite, tout en se disant, bon, bah, peut-être ça ne va pas passer au Conseil constitutionnel.
C'est ce qu'a dit Darmanin juste le lendemain matin.
C'est une manière de faire de la politique.
Il y a plusieurs textes
sur irresponsable et dégueulasse, je ne peux pas vous le dire plus clairement. Et troisièmement, si seulement c'était le seul problème. Mais aujourd'hui, être un gamin issu de l'immigration en France, c'est quoi? c'est voir des villes Rassemblement National où il se passe des choses absolument terribles. Moi, je voyais encore récemment qu'à Beaucaire, donc le maire, c'est Monsieur Sanchez, non seulement il a refusé les repas de substitution, le Conseil d'État l'a obligé à le faire, il a dit bah non, je le fais pas quand même. Maintenant, il met le cochon obligatoire le lundi. C'est-à-dire que c'est vraiment pervers. C'est-à-dire
la provocation.
Que c'est vraiment la provocation. Et que fait l'État ? Aujourd'hui, rien. C'est en place et il y a des mamans célibataires qui prennent des RTT pour aller chercher leurs enfants le lundi, leur faire manger en vitesse, revenir. Il y a des gamins qui mangent que des yaourts et du pain. Franchement, c'est humiliant et c'est dégueulasse. Ce qui se passe au lycée Averroès à Lille, où on ne sait pas bien, où même Jean-René Le Serre, un sénateur UMP, on ne peut pas dire qu'il soit islamo-gauchiste, contrairement à peut-être nous tous dans cette pièce, ce que certains pourraient penser. Voilà, lui, il dit, mais on n'a pas les éléments du dossier, ça paraît bizarre. Est-ce que je peux les avoir ? Est-ce que je peux être médiateur ? Est-ce qu'on peut regarder ? Donc ça, c'est un problème. Le moment qu'on a tous vécu de la mort tragique de Naël, avec tout ce que ça véhicule, et le fait que la différence est que là on a vu la vidéo, mais combien il y a eu de Naël dont la mort n'a pas été filmée, et l'image que ça renvoyait de bah non, selon ta couleur de peau tu ne seras pas contrôlé le même nombre de fois dans ta vie, les refus d'obtempérer ne seront pas gérés de la même manière par la police. C'est tout ça, en fait.
Refus d'obtempérer qui est quasiment un permis de tuer aujourd'hui,
évidemment. Et cette loi, c'est l'aboutissement d'un continuum de choses qui ne vont pas et qui choquent de moins en moins. Moi, je le vois depuis Hénin Beaumont. Le sujet, c'est pas juste que la ville soit gérée par le Rassemblement National. Moi, je me suis réveillée le lendemain matin, en 2014, en disant, bon, bah, je sais pas, je vais aller acheter mon pain, ça va être bizarre dans la rue. Et le problème, c'est que c'était pas bizarre dans la rue. Moi, j'étais bizarre dans ma tête, mais les gens, bon, ça continuait. Alors là, et en fait, on s'habitue à des choses qui ne sont pas normales. Et à chaque fois qu'on s'habitue à une chose qui n'est pas normale, une note survient un peu plus choquante. Et puis, vous savez, c'est comme la fable de la grenouille. Vous savez que la grenouille qu'on met dans de l'eau, on porte l'eau à ébullition. Si on l'achetait dans de l'eau chaude, elle sortirait tout de suite en disant « Ouh là là, ça ne va pas du tout ». Elle serait en alerte dans son corps. Mais si on la met dans de l'eau froide et qu'on chauffe très progressivement, elle ne s'échappe pas de la casserole. Elle n'a pas cet instinct de survie. C'est exactement ce qui est en train de se passer sur les sujets que nous évoquons dans ce pays.
Sur la préférence nationale, c'est quelque chose d'aberrant. La France, c'est le pays des conquêtes sociales, c'est le pays du contrat social, c'est le Front populaire.
C'était.
En principe, c'est toujours le pays des syndicats. Et ne plus donner les prestations familiales, l'APL, ne plus donner ses prestations, c'est fabriquer de l'exclusion, fabriquer de la précarité, fabriquer de la promiscuité, fabriquer de la pauvreté. Comment ce genre de choses ne peut pas traverser la tête de nos politiques ? C'est l'horreur des horreurs. Comment peut-on aller sur ce terrain-là ? Et Macron nous dit... Il nous dit, oui, mais le RSA, Rocard, etc. Mais ça n'a rien à voir.
Alors, de toute façon, lui, sa spécialité, c'est que c'est jamais de sa faute. Donc, il trouve toujours un exemple il y a 10, 20, 30 ans qui démontre qu'en fait, c'est OK. Faut qu'il arrête de faire ça et qu'il assume. Il veut faire un texte Rassemblement National, et bah, qu'il dise et qu'il l'assume. Là, c'est toujours se cacher derrière
là,
un
c'est
truc.
Renforcer
au moins
la
qu'il soit honnête.
C'est renforcer la pauvreté.
Qu'il soit honnête
c'est
avec nous et avec lui-même.
Ne pas donner des allocations familiales aux familles nombreuses qui sont dans les quartiers. Alors, ils vont nous dire qu'ils font une politique de la ville d'un côté, et de l'autre côté, ils vont nous fabriquer la misère.
Non, mais c'est surtout des horreurs racistes. Moi, là où j'habite, j'en entends depuis très longtemps. 2012, nous sommes en campagne pour la présidentielle. Bon, moi, je soutiens Eva Joly. Vous vous rappelez qu'il y avait François Hollande, dont on voyait un peu que c'était possible qu'il gagne, et même on avait envie qu'il gagne. Et je me rappelle sur le marché entendre deux personnes du Rassemblement National dire, en montrant une femme dont on voyait bien qu'elle était d'origine immigrée, et ils disent, regardez-moi celle-là, elle est en cloque. Les Arabes sont déjà en cloque parce qu'ils savent qu'Hollande va passer. Donc, pour avoir plus vite les allocs, ils ont déjà... Imaginez le délire, quand même. C'est que les gens disent, ferait des enfants... 9 mois avant l'élection présidentielle pour être prêt au premier jour, enfin, ça n'avait aucun sens. Mais ce que fait Macron aujourd'hui en disant bah, moi ma solution, il parle même pas des gens, hein. Il dit pour ralentir les flux, c'est même plus des humains, c'est déshumanisé, c'est des flux. Donc pour ralentir les flux, bah, il dit bah, si on fait cette mesure là, du coup ils vont pas venir, comme si c'était l'unique
il les ralentira
motif.
Jamais.
Mais c'est valider toutes les thèses racistes qu'on entend depuis des années. Deuxièmement, sur l'aide médicale d'État, quand j'entends que ça fait appel d'air, et c'est pour ça qu'il faut supprimer. L'aide médicale d'État, 50% des personnes sur le territoire qui auraient droit n'y ont pas recours. Est-ce que vous pensez que les gens viendraient du bout du monde juste pour cette aide, si c'est en plus pour à la fin qu'il n'y ait pas recours ? 86% des gens,
faire marche arrière, d'ailleurs.
86% des gens qui vont dans les centres de médecins du monde sont éligibles à l'AME et ne l'ont pas. Donc on voit bien que c'est la réalité est un peu différente que les arguments racistes et tronqués qui ont servi de prétexte à voter cette loi qui fait surtout plaisir à une personne en politique. Elle s'appelle Marine Le Pen.
Alors, pour terminer cette deuxième partie, quelle réponse Marine Tondelier, en dehors de voter les écologistes, quelle réponse la société civile, le Conseil constitutionnel, quelle réponse face à ce qui est un reniement, une régression?
Là où on en est rendu.
Là, on a vu les conseils de gauche, etc., qui sont révoltés, mais quelle réponse?
Non, mais là où on en est rendu, je vais vous dire, on va pas dire on choisit une solution. On va faire tout ce qu'on peut, tout le temps. Vous m'avez cité tout à l'heure en train de dire on n'abandonnera jamais. Nous y sommes, donc on va continuer. La première chose, c'est que les partis écologistes et de gauche doivent être au rendez-vous. Le sujet aujourd'hui, c'est pas qui est pas d'accord avec qui sur je sais pas quoi, c'est sur ce sujet-là, on est ensemble et on ne lâche pas. Nous avons signé hier, ensemble, on a passé la journée au téléphone à faire le lien entre Fabien Roussel, Olivier Faure, Manuel Bompard et plein d'autres copains de politiques, associatifs, syndicaux, et on a réussi à sortir un appel où toutes ces personnes se mettaient d'accord sur ce mot d'ordre, cette loi ne peut pas s'appliquer en l'état. Deuxièmement, l'Humanité a sorti aussi un appel avec plein de monde, du milieu intellectuel, du milieu de la culture. Et moi, je vais vous dire, ces appels, je pense pas que c'est les appels et les tribunes qui sauveront le monde, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent, et donc je sais qu'une grande partie sont sincèrement extrêmement heurtées par cette loi, parce qu'ils savent que si elle était en vigueur il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils et elles ne seraient peut-être pas là. Et moi, je leur adresse mes plus sincères pensées, mon plus sincère soutien, parce que je sais ce que renvoie ce texte dans l'imaginaire de beaucoup de gens, et à quel point ça peut être violent avant même qu'il ne s'applique. Tout ce qu'on entend depuis un an sur le sujet est violent, et le fait qu'ils arrivent à leur fin, celles et ceux qui ont voulu faire ça, l'est tout autant. Donc, déjà, par principe, la bataille culturelle, elle continue. Les associations se rencontraient toutes hier, elles proposeront des choses. Les maires, moi je discutais encore ce matin avec des maires écologistes, nous serons au rendez-vous parce que les mairies, les départements, ils ont aussi leur rôle à jouer. J'entends beaucoup d'élus locaux qui disent à gauche et chez les écolos, nous allons entrer en résistance contre ce texte. Ils seront au rendez-vous. Et puis il y a des batailles aussi côté juridique qui commence. On verra ce que le Conseil constitutionnel dit. Peut-être jouera-t-il le rôle de rempart aussi dans une certaine mesure. Mais n'oublions pas que le seul responsable et le vrai responsable, il est président de la République. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il a été élu avec les voix de gens comme vous et moi qui ne voulaient pas du Rassemblement national. Et sans doute l'a-t-il oublié. On lui rappellera autant que possible. Mais c'est à lui de faire marche arrière, de prendre ses responsabilités, de promulguer ou pas, d'appliquer ou pas des lois dont les décrets d'application ne sortent jamais. Il y en a plein. Je pense que celle-là, c'est peut-être pas la priorité. Voilà.
À tout de suite.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Alors, une liste des écologistes tout seul, hein, vous partez pas en groupe.
Même quand on est tout seul, on est déjà beaucoup. Aux
européennes, ouais. On est une bande de copains à soi tout seul, comme dirait Renaud. Sur l'Europe, c'est assez mitigé parce que les Français, l'Europe, ils savent pas ce que c'est. C'est un truc comme ça, c'est un espèce de gros machin, pour paraphraser De Gaulle. Mais en même temps, ils ont peur de l'Europe, parce que l'Europe, c'est des lois qui les empêchent de vivre au niveau de leur souveraineté, etc. Donc c'est un peu, il y a une difficulté de lire un peu l'Europe. Et surtout là, récemment, on le voit avec Poutine qui fait ce qu'il veut, avec les différentes guerres. Donc depuis que Sarkozy a été président, il l'a annexé à l'OTAN. Donc et puis, pour vous, l'Europe, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas de défense commune, il n'y a pas de politique étrangère commune. On a toujours le sentiment que l'Europe, c'est toujours les écologistes parlent de l'Europe, c'est la politique agricole commune, c'est un peu le dada permanent. De temps en temps, l'énergie nucléaire. Mais les grandes lignes des écologistes pour faire voter les gens pour vous, aux Européens, ça serait quoi les deux, trois idées principales?
La première chose, c'est que c'est normal que les Français comprennent pas toujours tout à l'Europe, puisque les politiques français, nombreux, leur racontent n'importe quoi sur le sujet. On est quand même les spécialistes en France, où quand il y a un truc qui va pas, le politique qui est responsable de ça dit « Ah non mais c'est l'Europe ». Il vous explique pas pourquoi, comment, c'est le bouc émissaire idéal. Comme ça, c'est jamais de votre faute, c'est toujours la faute de l'Europe. Et donc évidemment, quand on entend ça à longueur de journée dans les médias, de la part de politiques qui sont censés être responsables, ça n'incite pas à faire confiance à l'Europe. Que cette Europe, là, actuelle, nous convienne, qu'elle soit parfaite, je ne vous le dirai pas. On se bat au quotidien, de l'intérieur, parce qu'on tient à l'Europe, à la changer. Mais nous pensons,
mais
nous écologistes,
l'Europe
que c'est plus qu'utile, que c'est indispensable. Vous dites, tonton Poutine, il fait ses trucs, tout le monde s'en fiche. C'est pas vrai. Je peux vous dire que sans l'Europe, il n'y aurait plus de guerre en Ukraine. Elle serait terminée, elle serait gagnée par la Russie. L'Europe a été au rendez-vous. Et même si il n'y avait pas de défense commune toute prête bien, comme si on avait tout anticipé, l'Europe a été au rendez-vous, très réactive. Qu'elle ne le soit pas sur le conflit israélo-palestinien, C'est un vrai problème. Mais sur l'Ukraine, elle était au rendez-vous. Et puis surtout, vous dites l'Europe, vous avez dit un peu l'Europe, c'est ce qui nous embête avec des réglementations, tout ça. Mais l'Europe, c'est aussi ce qui nous protège.
C'est le discours des souverainistes.
Ça nous, oui,
parce
mais
que
c'est
vous
faux.
Avez vu les populistes en Hongrie, en Italie, mais en Belgique, en France. Je veux dire que l'Europe nous emmerde entre guillemets, et nous, on est voilà, on veut changer de monnaie, on veut être chez nous, etc., etc.
Non, mais ils racontent ce qui les arrange. Moi, je vais vous dire la vérité. Sur le social, l'Europe devrait nous protéger beaucoup plus. Les écologistes se battent pour un salaire minimum européen, etc. Et c'est des sujets qui avancent. Mais ce qu'on défend, nous, par exemple, dans cette campagne européenne, avec Marie Toussaint, qui est notre tête de liste, c'est un droit de veto social. C'est-à-dire que l'Europe ne puisse plus voter des mesures qui nuisent aux 10% des plus précaires en Europe. Ça, c'est une mesure qui est forte, qui est courageuse et qu'on met sur le débat.
Il y a longtemps qu'on en parle de ça, mais c'est un peu une arlésienne.
Ça va être au centre de notre campagne. La deuxième chose, c'est que sur l'environnement, puisque vous l'avez dit, je suis écologiste, vous pensez que l'Europe ne vous sert à rien. Mais le saviez-vous, aujourd'hui, l'État français est condamné par la justice européenne et par la justice française, parce qu'il ne respecte pas des choses sur le plan environnemental, parce qu'il ne respecte pas les normes sur la qualité de l'air, parce qu'il ne respecte pas les objectifs qui nous sont fixés sur les énergies renouvelables. Sur la chasse, par exemple, j'étais ce week-end en formation avec des gens experts de la biodiversité. Il y a des espèces qui ne pourraient pas être chassées. Il y a des arrêtés qui autorisent la chasse d'espèces avec des périodes de chasse qui ne respectent pas le droit européen. Et la France n'a pas le droit de faire ça. Et si aujourd'hui les associations arrivent à défendre ces espèces protégées, je vous ai dit les écologistes à défendre le vivant, qu'il soit humain ou non humain, et bien aujourd'hui on arrive à gagner en justice grâce à l'Europe, parce que quand le juge regarde l'État, il se dit ben non, effectivement la France n'a pas le droit de faire ça. Le problème c'est que comme la France s'en fout un peu, ils prennent, vous avez un arrêt de chasse, vous pouvez te dire, ben, dans 3 mois on va prendre cet arrêté. Donc on peut discuter de ça. Eux ils prennent la veille pour le lendemain. Et donc, le temps que vous attaquiez, bon, y a des milliers d'animaux qui sont tués dans la toute illégalité. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est aider à appliquer le droit européen.
Marine Tondelier,
alors c'est pour ça qu'il faut des écologistes en Europe, mais aussi en France, de l'Élysée jusqu'aux maires, et c'est pour ça qu'on se bat.
Marine Tondelier, alors que l'Europe se meurt d'un point de vue démographique, hein, c'est 1,8 enfants en France, en Allemagne, c'est pire, elle érige des murs.
On va mourir plus vite du changement climatique que du problème démographique.
Elle part d'un Schengen numéro 2, elle renforce les pouvoirs de Frontex, et elle met les passeurs, comme s'il y avait que les coupables, sur les réfugiés. Donc c'est une Europe qui se barricade, qui se recroqueville sur elle-même. Quel est votre message pour les électeurs?
C'est vrai qu'il y a 50 ans, la France elle avait affrété ce bateau, l'île de Lumière, pour aller chercher ce qu'on appelait les boat people, pour les sauver de la noyade en mer de Chine. Et on avait accueilli à l'époque, je rappelle quand même, 130 000 Cambodgiens et Vietnamiens. Aujourd'hui, on laisse mourir les enfants dans la mer Méditerranée, dans la Manche et sur nos plages. Et donc, c'est pas ça l'Europe pour laquelle nous nous battons. Et ce qui est terrible avec Frontex, c'est l'argent que ça coûte. Et là, vous savez, l'Europe, des fois, ils regardent bien les budgets, qu'est-ce qui coûte quoi, c'est important, la dépense publique. OK. Regardons, ça coûte combien Frontex et pour quel résultat? La Méditerranée, c'est en train de devenir un cimetière marrant. On criminalise et on poursuit les gens qui font preuve de solidarité, qui vont risquer leur vie pour aller sauver de la noyade. Et surtout, on sous-traite une partie de la protection de notre frontière à des pays de confiance, telles que la Libye, etc., ça ne va pas du tout. On ne peut pas dire c'est la Libye qui est responsable de la protection de notre frontière. Il y a vraiment un truc qui ne tourne pas rond.
Alors, qu'est-ce qu'il faut, il faut refonder la gouvernance. Il faut changer la gouvernance. Il faut refonder l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est là que tout est lié. Effectivement, que l'Europe que nous on souhaite, elle serait plus fédérale. Elle fonctionnerait. Aujourd'hui, c'est peut-être pas normal qu'un pays seul puisse bloquer tout entre les pays. Mais vous voyez bien que le Parlement européen est une chose et qu'on va se battre pour qu'il y ait un maximum d'écologistes qui y siègent pour le mandat prochain, parce que c'est important pour toutes les valeurs que nous défendons et toutes les politiques que nous voulons mettre en place. Mais que, y compris quand vous avez fini de mener la bataille au Parlement européen et si tout se passe comme prévu, il y a aussi les États membres. Et que c'est pour ça que les écologistes sont organisés au niveau européen. On a un parti vert européen et on se bat partout, dans chaque pays, pour faire progresser l'écologie. Parce que voilà, l'Europe, c'est pas que le Parlement européen, c'est, ça c'est les élections européennes, mais c'est aussi bah, tout ce qui se passe dans chaque pays, quels dirigeants on envoie au Conseil de l'Europe, et nous nous battons bien sur tous les terrains pour faire bouger cette Europe, pour qu'elle soit plus protectrice des humains et du vivant de manière générale.
Donc, bah, on continue dans l'international, on va arriver au conflit israélo-palestinien. Alors il y a deux, trois trucs qu'on ne comprend pas. Depuis 1945, Israël n'a jamais exécuter une recommandation de l'ONU. La deuxième chose, c'est un soutien inconditionnel et total des États-Unis, qu'ils en sont à mettre des veto en permanence. Le dernier, où ils ont été tout seuls, même les Britanniques se sont abstenus, et ils ont mis encore un veto. C'est le patron du Pentagone qui est cul et chemise avec Netanyahou. Et on a l'impression que c'est quelque chose qui échappe à tout contrôle, que l'Occident a créé un monstre et que ce monstre en fait un peu à sa tête. Qu'est-ce qui se passe au Proche-Orient ?
Bon, si cette réponse pouvait être résolue en 30 secondes, je pense qu'on n'en serait pas là. Donc je vais faire preuve de beaucoup d'humilité en répondant comme je peux à des questions dont je ne suis pas spécialiste. Mais je pense que dans ces cas-là, il y a une chose très simple. On a une boussole facile, légitime, sur laquelle tout le monde peut se mettre d'accord. Ça s'appelle le droit international. Et effectivement, vous le dites, à partir du moment où le droit international est bafoué, où on le sait et on n'arrive pas à résoudre ça et à le faire appliquer.
Le droit international, il commence par le fait que tout peuple a droit à un État
et
qui peut se battre à disposer de lui-même et qui peut aller vers sa souveraineté, y compris par la lutte armée. Ça, c'est dans les résolutions de l'ONU.
Mais prenons par exemple le cas, sans refaire toute l'histoire depuis 1948, mais aujourd'hui, en Cisjordanie, il y a une colonisation qui est illégale.
500 000 colons en Cisjordanie.
Qui est illégale. Le 30 août dernier, nous étions avant les attaques terroristes, avant les bombardements sur Gaza, avant l'épisode que nous connaissons. On a une réunion avec Macron, avec tous les chefs de parti. J'y suis. Et on a un grand moment sur l'international. L'Ukraine, l'Arménie, on parle plein de sujets graves. Et dans mon tour de parole, je dis, excusez-moi, j'ai l'impression que personne n'a parlé du conflit israélo-palestinien. Alors que moi, depuis que je suis toute petite, j'en entends parler. Et j'ai l'impression qu'il y a des moments où ça occupait tout le débat public. Toutes les projecteurs étaient basés là-bas. Je me rappelle de la foutille de la paix, je me rappelle de l'opération Plan Durci. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que la situation à Gaza, le 30 août, n'a jamais été aussi dure. La colonisation s'accélère parce que l'extrême droite a gagné en Israël, qu'ils les arment, qu'ils les utilisent, et qu'on ne parle même plus de démanteler les colonies illégales, mais que ça s'accélère, et qu'il y a des injustices profondes, qu'il y a des gens qui habitent là, qui se font arracher leurs oliviers, qui se font chasser de chez eux. Ça se passe sous nos yeux, ça n'a jamais été aussi grave depuis longtemps, mais on n'en parle pas, très peu en France et très peu dans le monde. Et donc je dis à Emmanuel Macron, que fait-on ? Comment on fait pour que ça ne se passe pas dans l'indifférence générale ? Au moins ça. Et voilà, et on débat de ça, mais vous voyez le 30 août, en plus, je passe pour quelqu'un d'assez pénible, vous voyez ce que je veux dire, en disant bon, bah merci, les écolos, super. Depuis le 7 octobre, la tension médiatique collective s'est retournée vers cette zone, mais voilà ce qui arrive quand on ne s'occupe pas d'un sujet, quand on dit bon, bah, de toute façon, on ne sait plus quoi faire, ça fait des années que ça dure. On arrive dans un moment voilà, qui est terrible. Les projecteurs se sont retournés brièvement sur la zone, on a vu des choses terribles, on n'a pas tout vu. Puisque évidemment, dans une zone où les journalistes ne peuvent pas travailler librement, sont tués pour certains d'entre eux.
Presque une centaine.
Et qu'il n'y a plus, que les moyens de communication sont coupés.
Près de 100 journalistes sont morts à Gaza.
Et que les moyens de communication sont coupés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les journalistes professionnels, mais on voit bien que dans plein de conflits, au moment du siège d'Alep notamment, les citoyens devenaient eux-mêmes journalistes en disant il n'y a pas de journalistes, nous on va vous montrer. Là, les moyens de communication étaient coupés. Nous, les écologistes, nous défendons le fait que la Cour pénale internationale puisse envoyer des enquêteurs à Gaza. Ce serait le début du commencement, du minimum, pour au moins savoir ce qu'il se passe, que la vérité puisse être sue un jour et donc que la justice puisse être rendue. Ça permettrait d'enquêter à la fois sur les otages qui restent sur place, sur les bombardements en cours, et que ça mette fin aussi à une certaine forme d'impunité. Parce que vous voyez, quand vous êtes en train de mener une guerre, même les guerres ont une règle. Même les guerres ont des règles. Mais quand vous n'avez personne pour vérifier sur place ce qu'il se passe, et que quand on vous dit, tiens, il y a telle vidéo, il y a tel bombardement, c'est à l'hôpital, annoncez la propagande du Hamas, annoncez la propagande de Tal, et donc du coup, tout est embrouillé, on ne sait jamais vraiment sur quel fait s'appuyer, alors c'est terrible. Et puis, évidemment, on parle à Gaza de personnes qui vivent en état de blocus depuis 16 ans, maintenant en état de siège, à qui on dit vous habitez là, vous devez évacuer la zone parce qu'on va bombarder, on vous prévient, qui vont dans le sud de Gaza. Mais maintenant on bombarde aussi le sud de Gaza. Ils ne sont à l'abri nulle part, ils ont un manque d'accès à l'eau, à la nourriture, aux médicaments. 50% de la population sur place est mineure. Il y a énormément d'enfants à Gaza qui n'ont jamais connu autre chose que le blocus. Et donc que fabriquons-nous quand on fait naître des enfants et grandir des enfants dans ces conditions? Je crains énormément qu'on arrive dans un truc assez inextricable. Et donc dans ces cas-là, on défend les droits humains, le droit humanitaire, le droit international. Et aujourd'hui, les trois ne sont pas respectés, ni à Gaza, ni en Cisjordanie.
Marine Tondelier, merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, quelqu'un est pris de justice. On l'aura compris.
J'aurais aimé avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer avant Noël. J'espère pouvoir vous en apporter dans les mois qui viennent.
Mais vraiment, il faut que vous reveniez parce que c'était trop court.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Marine.
Quand vous voulez.
Merci.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.